Maintenant, je nous invite à tourner dans le chapitre 5 du livre de Daniel. On ne va pas étudier l'ensemble du chapitre, juste la première partie, les versets 1 à 4, mais je vais quand même faire la lecture du chapitre afin de pouvoir nous mettre dans le contexte. Donc, Daniel, chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire, et ils burent du vin. Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, ils écrivirent en face du chandelier sur le chaud de la muraille du palais royal. Soit en passant, les découvertes archéologiques du palais de Nebuchadnezzar confirment que les choses ont pu se passer ainsi. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées se troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, c'est-à-dire sa vessie, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi. « Vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui est en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. » Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris des dieux qu'on trouve... Sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture, m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. » Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. C'est ce que nous avons vu au chapitre 4. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent. d'or, d'airain et de fer qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comme Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or. On publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. On pense qu'il était l'oncle de Cyrus, connu plus particulièrement comme le roi des Mèdes et des Perses, ce Darius. Une assurance mortelle. Le titre du message aurait pu être une arrogance mortelle, ou tout simplement la pensée d'un insensé. Le verset 1 nous dit que le roi Belshazzar, alors on arrive, on passe à partir on était au chapitre 4, n'est-ce pas? Et là on passe à la fin de l'Empire babylonien. Ça veut dire environ 70 ans après que les Judas étaient amenés en déportation. Et ceux qui connaissent un peu les Écritures, vous savez que le prophète Jérémie avait annoncé qu'après 70 ans, que Dieu allait permettre à son peuple de revenir en Judée, que la ville de Jérusalem serait rebâtie ainsi que le temple qui avait été détruit. Alors, les événements de ce chapitre se déroulent en 539 avant notre ère, au moment de la chute de l'Empire babylonien. L'Empire babylonien est tombé en 539 et comme on l'a vu, il va tomber en fait la nuit même où Belshazzar a eu donc cette révélation de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, on ne possédait en dehors du livre de Daniel aucun document datant de l'Antiquité qui faisait mention du roi Belshazzar. Les anciens historiens rapportent que c'est Nabonide, lequel n'était pas un descendant de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était décédé en 562, donc c'est Nabonide qui régnait alors, il a régné 17 ans, et ce qui, pendant longtemps, a fait dire à nombre de gens que le récit du chapitre 5 de Daniel n'était que pure fiction. Il y a encore des gens, bien sûr, qui le croient. Quoi qu'il en soit, on a découvert depuis ce temps-là plusieurs documents, donc au Moyen-Orient, des documents écrits en cunéiforme. Vous savez, ça c'est l'espèce de l'ancienne écriture, ça ressemble à des clous, à ne pas se mélanger avec l'écriture des Égyptiens, qui ressemble plus à des bandes dessinées ou des rébus, là. C'est très très beau d'ailleurs, mais donc c'est comme des espèces de clous. Mais on a découvert plusieurs documents qui attestent qu'en fait, Nabonide avait un fils aîné, et que celui-ci a exercé avec son père une co-régence pendant plusieurs années. Nabonide, qui était un roi un peu particulier, il n'a pas resté longtemps à Babylone, semble-t-il qu'il préférait aller ailleurs. Il a remis donc l'autorité royale à son fils, bien qu'il demeurait second dans le royaume, Belshazzar. Et une autre particularité, semble-t-il qu'il n'adorait pas donc Nabonide, le dieu Marduk, ce qui a bien sûr causé bien des problèmes. C'était le dieu principal en Babylonie. Il préférait le dieu de la lune, le dieu lune, je ne sais pas trop quoi, le dieu Sin. Mais c'est pas les controverses religieuses, en dehors complètement de la révélation, c'est extraordinaire. Même dans l'Église, il y a des drôles de controverses bizarres qui n'ont rien à voir avec l'Écriture. Le cœur de la religion, le cœur de l'homme religieux, qui peut s'attacher à un peu n'importe quoi, est parfois même prêt à batailler pour ses mensonges. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle le nom de Belshazzar ne figure sur aucun document officiel qu'on a retrouvé. C'est toujours le nom de Nabonide. Et ça explique pourquoi au verset 7, entre autres, mais aussi c'est ce que Belshazzar va dire à Daniel, que si quelqu'un réussissait donc à lire l'inscription sur le mur et en a donné l'explication, que cette personne occuperait alors la troisième position au sein du royaume. Pourquoi? Parce qu'il avait Nabonide, Belshazzar, et cette personne, hein, s'il avait réussi, en fait, c'est ce qui est arrivé à Daniel. Pour ce qui est du lien ancestral mentionné par Daniel entre Nebuchadnezzar et Belshazzar, on n'est pas du tout certain. On sait que l'Écriture ne peut pas se tromper, mais Nabonide n'était pas un fils, un descendant de Nebuchadnezzar. En fait, il est monté sur le trône après une insurrection. On pense que peut-être que Nabonide avait marié une des filles de Nebuchadnezzar. Je pense que j'ai mis son nom, une certaine Nitocrist. On n'est pas certain de cela. Et donc, dans ce sens-là, Nebuchadnezzar aurait été l'ancêtre de Belshazzar. Quoi qu'il en soit, on sait que l'Écriture est inspirée et infaillible. Selon l'historien grec Xénophon, Belshazzar était un jeune homme dissolu, cruel et impie. Il avait une bonne opinion de celui-ci. Non? Et là, il nous est dit que le roi Belshazzar, donnant un grand festin assez grand, donnant un grand festin assez grand au nombre de 1000. C'est un chiffre arrondi, bien sûr. Alors, il faut savoir que de tels banquets étaient connus en Assyrie, en Babylonie et en Perse. Et notamment en Perse, semble-t-il que les rois perses recevaient même quotidiennement jusqu'à 15 000 personnes. Pas 15 000, oui, jusqu'à 15 000, semble-t-il. Hein? Alexandre le Grand aurait invité 10 000 personnes à son mariage, etc. Et le but, bien sûr, c'était de démontrer la gloire du souverain, sa capacité, ce qui devait coûter des sous aux contribuables. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la chose qui importait le plus. Et bien sûr, de telles célébrations étaient en fait, ça virait à la beuverie, hein, et c'était des occasions de débauche. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, un tel festin était un problème en soi, mais il faut savoir que au moment où Belshazzar, justement, invite ces gens à Babylone, Cyrus le Perse et Darius le Mède ont pénétré à l'intérieur des frontières du royaume. En fait, c'est déjà plusieurs années hein, qu'ils cherchent à s'emparer du royaume. Ils ont pénétré à l'intérieur des frontières du royaume de Babylone pour s'en emparer. Ils s'avancent vers la capitale. La veille même, Cyrus a remporté une importante victoire contre Nabonide, donc le père de Belshazzar. Nabonide qui a cependant réussi à fuir. C'est donc dans un tel contexte que Belshazzar, chargé alors par Nabonide, qui était parti pour combattre les Perses et les Mèdes, alors il avait chargé son fils de défendre la capitale, Babylone. Donc c'est dans un tel contexte que Belshazzar décide de se livrer au plaisir et au divertissement. Au moment même où l'Empire était menacé. Hein? À ce moment-là même, le roi, ses nobles, ce qui comprenait certainement ses principaux chefs militaires, se livre à une somptueuse orgie. Est-ce que ce n'est pas ce que le monde fait en ce moment? Malgré toutes les menaces de jugement qui pèsent sur le monde, tout ce qu'on voit autour de nous, les gens, par tous les moyens possibles, cherchent, bien sûr, à oublier cela, hein, comme si ce n'était pas possible que ça puisse nous arriver. La question se pose à savoir si Belshazzar était au courant de la défaite de Nabonide. Ça ne change pas grand-chose cependant. Ce qu'on sait, c'est que tant le roi que ses grands, et les chefs militaires donc, et les nobles, croyaient qu'ils étaient en parfaite sécurité parce qu'ils étaient persuadés que les défenses de la ville la rendaient tout simplement impénétrable, tout simplement. Et il jugeait même que les fortifications qui longeaient les rives du fleuve de l'Euphrate demandaient à peine d'être gardées. Selon Xénophon aussi, toujours l'historien grec, Babylone aurait à ce moment-là possédé des vivres ou des provisions qui lui auraient permis de soutenir un siège de 10 ans et même plus. Est-ce que c'est exagéré? Je ne sais pas. Mais si on considère que c'est la grande capitale, n'est-ce pas, de l'Empire, que tous les biens de l'Empire, les richesses de l'Empire convergent vers la capitale, et même les biens et des richesses d'au-delà des frontières de l'Empire, effectivement, connaissant la richesse de cette ville-là, c'est tout à fait plausible que l'on croyait avoir tout ce qu'il fallait pour résister à l'ennemi pendant des années. En d'autres mots, on possède une grande assurance. Sur quoi repose mon assurance ce matin? Je suis en bonne santé, je suis allé voir mon médecin, il m'a dit que tout est beau. J'ai un bon fonds de pension, un bon travail. Tout simplement, j'ai le moral. Pour moi, tout va bien. Hein? Sur quoi repose mon assurance? Deuxième point, justement, l'arrogance de Belshazzar. Car son assurance, c'est de l'arrogance. C'est du mensonge. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors, ayant goûté au vin, alors on peut s'imaginer, on sait qu'il était assis à un endroit plus élevé, hein, le roi, probablement c'est quelques proches, à la vue de tous. Quand ça dit qu'il eut goûté au vin, je pense que ça veut dire par là que quand le vin a commencé à faire son effet. Belshazzar a décidé alors de faire venir les ustensiles et les vases d'or que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, 70 ans plus tôt, pour les placer dans le temple de son Dieu. Et ce, afin que ses convives et ses femmes, ainsi que ses concubines, puissent s'en servir pour boire, ce qu'ils firent en rendant gloire à leur Dieu, à leurs idoles, faites d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Le livre de Daniel souligne ce fait des vanités, hein, des abominations aux yeux de Dieu. Ça nous rappelle que l'abus de l'alcool, contrairement à l'impression que cela produit, conduit à une perte de contrôle de soi, hein, à la perte de toute inhibition, au fait de donner libre cours à ses impulsions. La question se pose si Belshazzar avait agi ainsi, s'il n'avait pas été sous l'effet prononcé de l'alcool. Ceci étant dit, ce que l'alcool fait, c'est de révéler ce qui est dans le cœur, tout simplement. La perte, le fait de laisser libre cours à ses impulsions, de perdre le contrôle de sa personne. L'Écriture nous met en garde contre l'ivrognerie, nous appelant, nous les croyants contraires, à être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, hein, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Littéralement, soyez sans cesse remplis de l'Esprit. Au lieu d'être sous le contrôle de l'alcool, soyez sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais l'Écriture nous met en garde aussi contre toute autre forme d'intoxication possible. Elle nous appelle, elle nous exhorte à la sobriété, à la tempérance dans notre manière de penser et de vivre pour Dieu et selon Dieu et par sa grâce. La sobriété, ce n'est pas seulement la question de l'alcool ou de la drogue, hein? C'est aussi toute la question de nos pensées. Hein, de notre visée des choses, de nos buts, etc. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 8, l'apôtre décrit donc aux Thessaloniciens, il vient de faire référence aux gens du dehors, n'est-ce pas, qui s'en vont vers un grand jugement, même vers une séduction extraordinaire de la part de l'ennemi. Il dit, mais il y a un contraste. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons point donc comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les autres, eux, ils ne sont pas sobres. Ils sont agités par toutes sortes de passions. Ils sont en recherche du plaisir, d'assouvir, n'est-ce pas, leurs soi-disant besoins, etc., etc. Mais vous, soyez sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. L'apôtre Pierre aussi nous appelle à la sobriété. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 13 à 16. C'est pourquoi, Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Ne vous livrez plus, dit l'apôtre Pierre, comme par le passé, à vos passions débridées, qui font la guerre à l'âme. Hein? Saignez les reins de votre entendement, les pensées, les raisonnements. C'est l'image de quelqu'un à l'époque non, qui on portait des tuniques, des robes, n'est-ce pas? Et bien sûr, pour empêcher qu'on puisse se prendre les pieds là-dedans, il fallait relever le tout et faire tenir ça avec une ceinture. Et l'idée, c'était de relever le tout et resserrer la ceinture comme faut. C'est l'idée vraiment de ceindre les reins de votre entendement. Ne laissez pas toutes ces choses-là dépasser hein, pour vous enverger dedans. Toutes ces mauvaises pensées, toutes ces désirs immodérés, n'est-ce pas, qui ne peuvent que vous faire chuter, trébucher. Alors, la question, bien sûr, est quel est mon but dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que je recherche avant toute chose? Car si je recherche mon propre bonheur, la richesse de ce monde, la reconnaissance d'autrui, etc., je ne pourrai pas servir le Seigneur. Je ne pourrai pas servir le Seigneur. Je vais me prendre les pieds dans cela. J'ai besoin de faire le ménage dans mes pensées, de ceindre les reins de mon entendement, d'être sobre, ayant les yeux fixés sur Christ et sur l'espérance à laquelle il m'appelle, car je ne suis plus de ce monde. De même, un peu plus loin, en fait, je dis un peu plus loin, c'est un peu plus loin, au chapitre 5, verset 5 à 8, l'apôtre écrit, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Ah, la sobriété passe aussi par l'humilité. L'humilité. « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc devant la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres. » Veillez, veillez. Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes aspirations? Soyez sobre, veillez. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si mes attentes ne sont pas celles de Dieu, hein, si je ne sais pas justement mes raisonnements, je vais être déçu. Je rappelle que le fruit de l'esprit inclut la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22, la maîtrise de soi. Je rappelle aussi que l'idolâtrie est liée à la débauche et à la luxure. Bien que certains pensent que ce festin mis sur pied par Belshazzar était en fait un festival religieux. On n'a aucune indication dans le texte de cela, mais on voit qu'il y avait une connotation religieuse, puisqu'on a loué donc les dieux de Babylone, les dieux faits d'or, d'argent, d'airain, etc. Je rappelle que l'idolâtrie, sous toutes ses formes, même dans l'Église chrétienne, est nécessairement liée et conduit à la débauche et à la luxure, toujours. Parce qu'il n'y a que l'adoration du vrai Dieu, et je parle d'une véritable adoration, une véritable connaissance du vrai Dieu, une véritable communion avec le vrai Dieu qui puisse nous conduire justement à la sobriété du cœur, de l'âme et à la sainteté. Rien d'autre. Seule la personne de Christ peut m'amener à la sainteté. J'aurais beau, par tous les moyens possibles de rechercher celle-ci, c'est peine perdu. Enfin, en dehors de Christ, je ne cherche pas réellement la sainteté. Je cherche une pseudo-sainteté. Une sainteté dont je vais me forger, n'est-ce pas, une idée en tant que telle. Mais et comment est-ce que je vais savoir ce qu'est la véritable sainteté, la véritable sanctification? Il faut ouvrir la parole de Dieu. Il faut ouvrir la parole de Dieu. Hein? Et le culte rendu aux idoles, le culte idolâtre, bien sûr, c'est un culte qui a pour but de satisfaire les sens, et je dirais les sens réprouvés des hommes. C'est centré sur l'homme, le culte religieux, le culte idolâtre. Le véritable culte selon la parole de Dieu est un culte en vérité et en esprit, qui nous descend de nous-mêmes afin de nous tourner vers notre Dieu, pour recevoir de lui la grâce, la sanctification, la capacité de vivre pour lui, tout simplement. Je sais que le temps passe, mais j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 1, 11 plutôt. Non, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 15. Bel avertissement que l'apôtre Paul a fait aux Corinthiens, parce que il y avait des relents d'idolâtrie, de culte idolâtre au sein de la jeune église de Corinthe. Relents liés avec le fait qu'ils étaient encore des enfants en Christ et qu'ils n'avançaient pas. L'apôtre doit les reprendre à plusieurs reprises en leur disant « Vous êtes encore des enfants en Christ, vous marchez encore selon la chair, vous recherchez les choses palpables, les choses qui vous font plaisir. » Et non celle de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 15, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, en parlant des Juifs, bien sûr en fait des Israélites, ont tous été sous la nuée, là c'est lors de la sortie d'Égypte, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La grâce leur a été présentée. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Pour eux, le culte, c'était de répondre à leurs besoins. Bien sûr qu'ils étaient tournés vers une divinité, même, on peut même l'appeler l'Éternel. Mais l'Éternel était là juste pour répondre à mes désirs personnels. Et nous dirions aussi, des désirs charnels et non sanctifiés. Alors que la grâce de l'Esprit de Dieu en nous nous appelle plutôt à nous détourner nous-mêmes pour rechercher en notre Dieu la capacité de vivre pour lui et d'échapper au péché. Il y a un combat là-dedans. Ces gens-là, les Israélites, donc, ne discernaient pas le véritable Dieu qui agissait au milieu d'eux. Donc, ça nous dit, ils se sont assis pour manger, pour boire, se sont levés pour se divertir. C'est le culte païen en lui-même. Répondre à nos besoins. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ne tentons point. Où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il nous a conduits jusqu'ici? S'il l'a fait, est-ce que c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, justement? Nos enfants vont mourir de faim, nos enfants vont mourir de soif. Le murmure continuel. Et mettre Dieu à l'épreuve. Où est Dieu, Moïse? Où est Dieu dans notre situation? L'apôtre Paul ne nous présente pas ces choses ici comme étant de simples exemples de gens qui avaient besoin de grandir dans la foi. Il nous dit que c'était de l'incrédulité liée à leur idolâtrie. Il refusait de croire. Et il met en garde les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, contre de telles attitudes. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Belshazzar est en train de festoyer alors que l'ennemi était à la porte. La fin arrivait. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Quelle sera l'attitude de l'Église de Christ? Célébrer de façon charnelle ou se préparer au retour de Christ avec tout ce que cela représente et comporte? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je vous dis. Paul sait qu'il s'adresse à des véritables croyants à Corinthe. Il y avait quelques faux croyants certainement, mais alors il en appelle à leur intelligence spirituelle. Ne restez pas, ne vous laissez pas séduire, mais avancez. Hein? avancez. Gardez-vous de l'idolâtrie. Gardez-vous de l'esprit de ce monde. Et cette forme d'idolâtrie, on la voit dans la manière dont ils célébraient le repas du Seigneur. L'apôtre aussi les reprend là-dessus en disant, vous prenez le repas du Seigneur sans discerner ce que cela signifie. Et selon l'esprit de ce monde, selon l'esprit de Babylone, puisqu'il nous est dit que les riches arrivaient, enfin les plus nantis arrivaient avant les autres, n'attendaient pas les plus pauvres. De toute évidence, ils fêtaient littéralement, ils mangeaient tout, ils laissaient rien aux autres. Et même certains prenaient un coup. Belle Église, hein? L'Église du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul de dire, ce que vous faites apporte sur vous un jugement. De même que ce qu'a fait Belshazzar ici, a amené sur lui un jugement et sur le royaume. Ils ont pris les choses saintes de Dieu et les ont profanées. De même, lorsqu'on s'approche de notre Dieu, lorsqu'on ouvre le livre saint, lorsqu'on participe au sacrement du Seigneur, etc., etc., rappelons-nous que tout ce qui est en rapport avec notre Dieu est saint. Ne prenons pas ces choses à la légère, frères et sœurs. Même la prière. Tout ce qui est en rapport avec notre Dieu est saint comme Dieu est saint. Mais pourquoi est-ce que le Belshazzar a agi comme il l'a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait venir ainsi, donc, les ustensiles et les vases d'or de la maison de Dieu? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération que notre texte affirme un peu plus loin que le jeune monarque était au fait des interventions du Dieu d'Israël auprès de Nebuchadnezzar, son ancêtre, intervention qui avait poussé donc Nebuchadnezzar à lui rendre gloire et à reconnaître son caractère suprême. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Dès le début où Nebuchadnezzar a conquis Juda, il a été obligé de ployer à quelques reprises les genoux devant le Dieu d'Israël. Il a bien cherché, bien sûr, à conjurer l'oracle, qu'il a reçu au tout début, n'est-ce pas, ce songe qu'il a eu, hein, où il a vu donc que lui, il était la tête d'or d'une grande statue, mais l'idée était ceci, c'est que son royaume allait passer pour laisser place à un autre. Il a bien essayé, on l'a vu au chapitre 2, en faisant ériger lui-même une gigantesque statue d'or. Ce qu'il a voulu faire, c'est conjurer l'oracle divin en disant « Mon royaume va subsister ». Ce n'est pas le Dieu d'Israël qui a raison, hein? C'est moi qui ai raison, c'est moi, c'est ma volonté, c'est moi qui vais triompher. Je vais établir un royaume régner sur le monde jusqu'à la fin de celui-ci. On connaît ce qui est arrivé. En fait, en se faisant, d'ailleurs, il s'apprêtait à persécuter tous les Juifs qui auraient voulu rester fidèles au Dieu d'Israël. Mais le Seigneur, dans sa bonté, l'a amené à plier les genoux devant lui. Et on voit au chapitre 4 la même chose à la fin de son règne, alors que l'orgueil le saisit à nouveau. Hein, il en vient même à publier un édit universel dans lequel il reconnaît la suprématie du Dieu d'Israël. Donc, Belshazzar était au courant de ces choses-là. Il était au courant que le Dieu d'Israël avait annoncé la fin de Babylone. Mais de toute évidence, Belshazzar, imbu de lui-même, décide aussi que non, cela n'arrivera pas. Il est enflé d'orgueil, alors qu'il est sous l'action de l'alcool, n'est-ce pas? Il fait venir les ustensiles et les vases de la maison de l'Éternel. Et l'idée est ceci, non, le décret de ce Dieu-là ne s'accomplira pas. Plus que cela, lui et tous ses nobles, les chefs militaires, les grands, etc., commencent à louer leur Dieu en profanant ces vases-là, les ustensiles. Et en fait, ce qu'ils sont en train de déclarer, c'est que leurs dieux sont plus puissants que le Dieu d'Israël. Que personne ne pourra rentrer à Babylone. Que personne ne pourra renverser la grande ville. C'est une impossibilité parce qu'ils en ont décidé ainsi, tout simplement. Ils blasphèment donc avec arrogance le nom du Dieu des cieux. Ils se moquent de celui-ci. Hein, et considérant bien sûr leur propre divinité comme lui étant supérieure, divinité faite de main d'homme. Se croyant erronément sous la protection de ces faux dieux. Ésaïe chapitre 47, versets 7 à 9, un oracle écrit un siècle et demi, presque deux siècles plus tôt, n'est-ce pas, où le Seigneur s'adresse à Babylone et au roi de Babylone en disant, « Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis, dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. » Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assis avec assurance, qui dit en ton cœur, « Moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfant et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. » Sachant que l'attitude de Belshazzar allait nécessairement conduire à la persécution du peuple juif, puisqu'il vient de s'élever contre lui et de blasphémer son nom en disant « Ce Dieu n'aura pas le dernier mot. Nous allons vaincre les Mèdes et les Perses. Babylone ne sera jamais veuve. » Est-ce que ce n'est pas l'histoire de notre monde? Des nations qui s'élèvent et qui prétendent pouvoir subsister par leur propre force sans se repentir de leurs péchés. Troisième point, la folie de Belshazzar. Belshazzar et ses nobles étaient semblables à des ivrognes qui se livrent à la joie dans un avion en train de s'écraser. Tellement sous, l'avion s'écrase et on se réjouit. On chante des chants grivois. Alors qu'ils se moquaient de Dieu, étaient assurés de pouvoir repousser l'ennemi aux portes de Babylone, ils étaient ignorants que Darius avançait. Il y a plusieurs traditions sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il a pris la ville par surprise et qu'il n'y a même pas eu de combat en tant que tel. Selon ce qu'on saurait, semble-t-il que peut-être même qu'il y avait très peu de gens qui la défendaient, que même l'armée elle-même participait à la fête et donc la plupart des soldats étaient aussi sous l'effet de l'alcool. Tellement on était sûr de nous-mêmes. L'impudence de Belshazzar ne pouvait rien contre le dessein arrêté de Dieu. Son assurance n'était qu'un mirage, un mensonge. C'est pourquoi c'était une assurance mortelle. Nous dirions dans notre jargon chrétien une assurance charnelle. Quelle est mon assurance ce matin, même si je me dis chrétien? Sur quoi est-ce que je me repose? Je suis une bonne personne? Ça conduit en enfer. Je me suis fait baptiser? Ce n'est pas suffisant. Je donne à l'Église? Non. Il n'y a qu'un endroit où on peut trouver la véritable assurance qui ne vient pas de nous d'ailleurs. C'est au pied de la croix du Christ. En communion avec lui. En reconnaissant que je n'ai aucun mérite personnel. Ni aucune capacité de me défendre contre quoi que ce soit, surtout pas contre la main même de Dieu. Soit dit en passant, le Seigneur aurait pu toucher le cœur de Belshazzar comme il avait touché le cœur de Nebuchadnezzar. Il a amené donc Nebuchadnezzar à s'humilier, et donc le jugement n'est pas venu. Mais providentiellement, selon son infinie sagesse, Dieu avait décidé que c'était terminé. Le royaume de Babylone n'avait pas rempli son mandat. En fait, son temps est arrivé, mais il n'a, devant Dieu, n'est-ce pas, il ne pesait plus rien parce qu'il s'apprêtait à nouveau à persécuter le peuple de Dieu, alors que Dieu l'avait averti à plusieurs reprises. De ce fait, Dieu a jugé bon de donner, donc, la royauté à quelqu'un d'autre. Des siècles plus tard, alors que les Juifs vont rejeter leur Messie, celui-ci va leur dire, « Le royaume vous sera enlevé. Il sera donné à une autre nation qui en portera les fruits. » Nous approchons du jour où toutes les nations de ce monde, après des siècles d'évangélisation, vont aussi être rejetées une fois pour toutes. Le Seigneur de nous dire que le temps des nations va prendre fin. Ce sera terminé. Le jugement arrive. On ne sait pas quand, mais il se manifeste, mais il est là. Et tout ce qui porte le nom d'Église va aussi disparaître un jour. Tout ce qui n'a pas rempli le mandat de Dieu s'en va vers un grand et un gigantesque jugement. D'ailleurs, Pasteur Perron me partageait ce matin, selon ce qu'on peut bien voir dans le livre de Daniel de l'Apocalypse, que l'histoire de l'Église va se terminer à vue humaine par une très grande défaite. La plus grande défaite qui soit, l'Église va sembler avoir complètement disparu de ce monde. Nous approchons de ce jour on ne peut bien sûr pas dire quand en tant que tel, mais l'Écriture nous dit « veillez, soyez sobre ». La question qui se pose, c'est est-ce que l'Église vit dans la sobriété nécessaire pour se préparer? Et même si ce n'est pas encore le temps du retour du Christ, nous voyons bien qu'il y a une grande crise autour de nous. Alors la question se pose, mais qu'est-ce que je recherche en tant que chrétien? Qu'est-ce que l'Église désire? Est-ce que nos yeux sont ouverts sur les bonnes choses? Est-ce qu'on se prépare pour être capable d'affronter ce que Dieu a décidé pour nous, ce qui est devant nous en tant que tel? Car il est dangereux, car nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons marcher de façon voilée, comme l'a fait Belshazzar. Jacques de reprendre certains croyants en disant, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Déjà, c'est beaucoup plus humble, hein? Si Dieu le veut, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Sommes-nous alertes à discerner ce qui se passe à notre époque et à comprendre la volonté de Dieu à notre égard? Marchons-nous dans la réalité ou dans une fausse assurance, nous reposant sur nous-mêmes et non entièrement sur notre Dieu pour notre avenir? Alors que je préparais ce message, je me suis rappelé ce que j'avais lu il y a bien des années, n'est-ce pas, dans un petit livre qui s'intitule « Quand viendra la persécution ?» Ça a été écrit par un certain Jean Pitt en 1981. C'est quelqu'un qui travaillait pour Porte Ouverte, c'est ça, le ministère donc qui est dédié à l'Église persécutée, et qui raconte dans ce petit livre-là donc que pendant la guerre du Vietnam, alors c'est les années 70, les missionnaires d'une certaine société tenaient leur conférence annuelle. La ville où ils étaient réunis ressemblait à une forteresse. Il y avait beaucoup de soldats, de barricades et de canons, car les communistes du Nord-Vietnam l'avaient souvent attaqué. Malgré tout, les missionnaires discutèrent de divers projets prévus pour les années à venir et adoptèrent un programme de 10 ans. C'est vraiment l'attitude de l'Église contemporaine. Hein? Nul ne pensait que le Vietnam tomberait. Peut-être même qu'on entendait les discours, même américains ou autres, de dire « on va les écraser », etc., etc. Tous étaient bien convaincus qu'ils resteraient toujours ouverts au travail missionnaire. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On fait le travail de Dieu. Qu'est-il arrivé? Le Vietnam succomba. Non pas 10 ans plus tard, mais 10 jours après la conférence. Cela n'arrivera jamais. Telle était leur opinion. Mais 10 jours plus tard, ils durent fuir le Vietnam. L'Église y restait, mais sans aucune préparation. Ma question que je me pose comme pasteur, je sais que pasteur Perron se pose la même question, même si on n'a pas formulé la même chose, mais fait quelques conversations que j'ai avec lui, je ressens que c'est exactement le même fardeau. Est-ce que nous préparons l'Église comme il se doit? Soit dit en passant, préparer l'Église comme il se doit, c'est tout simplement prêcher la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est là, c'est pour préparer le croyant à vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Quel que soit ce que Dieu a prévu. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre chemin à prendre que de prêcher les Écritures et de marcher selon les Écritures. Mais pourtant, combien nous aimons nous en détourner. Combien nous aimons nous exalter. Essayer de planifier toute chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une place pour planifier, bien sûr. Mais nous avons besoin d'humilité, frères et sœurs. Est-ce que je fais véritablement ce à quoi je suis appelé? Est-ce que nous nous préparons véritablement? Et ça, ce n'est pas juste, je suis en train de parler, bien sûr, de tout ce qui se passe dans notre monde. Et je l'ai déjà dit, je le dis, le jugement est là. Le jugement est là. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous individuellement, puisqu'on ne sait ce qu'un jour va enfanter. Je le disais tout à l'heure, je peux être en très bonne santé aujourd'hui même. Et demain, tout cela est terminé. Accident de voiture, AVC. Je ne suis pas en train de vous faire des peurs, là. Hein? Mais c'est ça, c'est la réalité. Bien sûr qu'on se dit non, c'est impossible, surtout lorsqu'on est jeune, qu'on se sent en pleine forme. Et je vous souhaite la santé de tout mon cœur. Cela est vrai, je peux avoir un très bon travail, mais demain matin, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous connaissons des histoires d'horreur, même dans des familles, même des pasteurs, dont les familles ont été détruites du jour au lendemain. Est-ce que je suis en train de me préparer pour ce que Dieu a lui-même préparé pour moi? Est-ce que je marche dans la sobriété? Ou est-ce que je suis en train, d'une certaine manière, de festoyer? Hein? Est-ce que je manque de sobriété dans mes pensées, dans mes attentes, même face à Dieu? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Sachant qu'il n'y a qu'une assurance, elle est en Christ, le rocher des siècles. Ce qui fait que quoi qu'il m'arrive selon le plan de Dieu, je vais rester debout, je peux être profondément ébranlé. Mais c'est ce qui va me permettre de demeurer debout. Et plus nous avançons dans notre pèlerinage chrétien, plus nous voyons autour de nous les choses se dégrader jusqu'à un certain point. Nous voyons toutes nos images que nous sommes faites sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'Église, toutes nos attentes. Tout ça vole en éclats de plus en plus pour faire place à quelque chose de plus réaliste et de plus glorieux, la grâce de Dieu. L'assurance que lui seul peut me donner, qu'il me tient dans sa main et qu'il me destine à la vie éternelle. Notre Dieu, notre Père, nous voulons courber nos cœurs, nos âmes et nos têtes aussi. Fermer nos yeux devant toi. Désirant nous laisser interpeller par ta parole ce matin, alors que nous voyons la folie d'un roi qui était sur le point de mourir et de voir son royaume passer aux mains d'ennemis, mais qui considérait et croyait erronément notre Dieu pouvoir vaincre toutes ces choses, en fait, passer outre ta volonté. Qui est allé jusqu'à blasphémer ton nom, jusqu'à profaner, Seigneur, ce qui t'appartient, croyant que cela était suffisant pour conjurer ta volonté. Garde-nous, notre Dieu, de nous laisser aller à de tels états d'âme, mais d'apprendre à vivre dans une grande sobriété, notre Père. Que nos attentes soient les tiennes. Et comment est-ce qu'on peut comprendre tes attentes? Comment est-ce qu'on peut les saisir, sinon qu'en demeurant dans ta parole? Et en nous laissant travailler par ton Esprit Saint, à travers tout ce que nous vivons. Car Seigneur, chacun d'entre nous vivons des moments difficiles, des déconvenus, des choses qui nous déplaisent. Et certes, tu nous appelles à prier, et certes, nous expérimentons, notre Dieu, des transformations, des victoires. Mais il est faux de croire que tu nous libères de toutes choses, car tu te sers aussi de cela, Seigneur, pour nous parfaire, pour nous fortifier dans la foi, pour nous apprendre à nous reposer sur toi, et sur toi seul. Et surtout, notre Dieu, donne-nous de fonder notre assurance sur Christ et Christ seul, sur son œuvre accomplie au calvaire. Et de ne pas, notre Dieu, nous méprendre comme si nous possédions quelque capacité par nous-mêmes de te plaire ou d'accomplir ta volonté. Seigneur, nous en sommes dépourvus. Tout ce que nous faisons est entaché par le mal. Et il n'y a que ce qui est l'œuvre de ton Esprit, notre Dieu, qui peut agir comme il se veut. Alors sois béni, Seigneur, sois glorifié en Christ Jésus. Amen. Amen.